Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en néerlandais en 1938, Homo Ludens est un essai majeur de Johan Huizinga, historien et théoricien de la culture. Son titre désigne l'humain qui joue et propose un correctif aux définitions de l'humain comme être raisonnable, fabricant ou économique. Huizinga ne traite pas le jeu comme un simple loisir enfantin, ni comme une distraction secondaire. Il examine plutôt le rôle du jeu dans la formation des pratiques collectives, des institutions et des formes symboliques. Par une vaste enquête qui mobilise histoire, linguistique, étude des rites et comparaisons culturelles, il soutient que la culture naît dans le jeu et se déploie souvent sous sa forme. Le livre analyse ainsi les liens entre jeux, compétitions, règles, cérémonies, droits, guerres, poésie, savoir et art. Sa thèse est ambitieuse mais précise dans son orientation, le jeu est une condition nécessaire de la création culturelle, sans expliquer à lui seul toute vie sociale. Cet essai demeure une référence pour penser les dimensions libres, réglées et imaginatives de l'existence collective. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le jeu comme espace libre séparé de la vie ordinaire. Huizinga commence par dégager des traits qui permettent de reconnaître le jeu sans le réduire à un objet particulier. Jouer est une activité libre, elle ne peut conserver son caractère propre si elle est imposée comme une nécessité immédiate. Le jeu se distingue aussi de la vie ordinaire par un cadre temporel et spatial circonscrit. Il commence, finit et se déroule dans une ère délimitée, qu'il s'agisse du terrain, de la scène, du tribunal cérémoniel ou du lieu rituel. Cette séparation ne signifie pas insignifiance. Au contraire, parce que les participants acceptent provisoirement un autre ordre, le jeu peut produire une forte intensité, de la joie, de la tension et un sentiment de sérieux. Les règles y ont une fonction décisive. Elles ne sont pas de simples contraintes extérieures, elles rendent possible le monde du jeu, définissent ce qui compte comme coup, victoire, faute ou transgression. Celui qui refuse les règles ne perturbe donc pas seulement une activité, il met en cause le cadre commun qui lui donne sens. Cette analyse permet à Huizinga de considérer de nombreuses pratiques sociales comme des formes apparentées au jeu. Leur efficacité symbolique tient souvent à la création d'un espace distinct, volontairement ordonné et partagé, où des gestes ou des paroles acquièrent une valeur particulière. Deuxièmement, rites, fêtes et sacrés, les premières formes culturelles du jeu. L'une des idées centrales du livre est que le jeu entretient une proximité profonde avec le rite et la fête. Dans les cérémonies, les participants quittent les usages quotidiens, se soumettent à des formes prescrites, portent parfois des signes distinctifs et accomplissent des actions dont la signification dépasse leur utilité pratique. Ces traits rappellent la structure ludique, sans permettre de confondre simplement religion et divertissement. Huizinga cherche plutôt à montrer que les actes sacrés et festifs peuvent prendre forme dans un ordre séparé, réglé et chargé de symboles. La fête renforce cette observation, elle suspend partiellement le cours normal des activités, rassemble un groupe et introduit une intensité collective qui ne se mesure pas par le rendement. Le jeu fournit alors un langage pour comprendre comment une communauté met en scène ses valeurs, ses hiérarchies ou son rapport au monde. Cette perspective ne dit pas que toute croyance est fictive. Elle indique que la force sociale du rite dépend aussi de formes exécutées selon des règles, reconnues par un collectif et répétées dans un temps particulier. Huizinga fait ainsi du jeu un élément de médiation entre imagination et institution. Des conduites apparemment gratuites peuvent devenir durables, parce que leur répétition cérémonielle les inscrit dans la mémoire et dans les obligations d'un groupe. Troisièmement, compétition et règles de la joute à la formation du droit, Huizinga accorde une place importante à la compétition ou à gon, car elle révèle que le jeu ne se limite ni au repos ni à la fantaisie individuelle. Une lutte, une énigme. Un débat ou une épreuve peuvent être ludiques lorsqu'ils reposent sur un cadre partagé qui détermine les adversaires, les procédures et les critères de réussite. La rivalité peut alors canaliser les conflits en les transformant en confrontations réglées. Cette idée éclaire son examen des concours de prestige, des joutes verbales, des tournois et de certaines procédures juridiques anciennes. Dans chacun de ces cas, la décision ou la reconnaissance dépend d'une mise en forme des rôles sont distribués, des gestes sont autorisés, une audience valide le résultat. Le rapport au droit est particulièrement important. Huizinga ne soutient pas que le droit se réduit à un jeu. Mais il relève que nombre de pratiques judiciaires ont été liées à la compétition formelle, au défi, au serment et à la représentation publique. La justice exige une distance à la violence immédiate, le conflit doit entrer dans une procédure, avec des signes et des règles. Le jeu aide à comprendre cette transformation. Il permet de voir que les institutions peuvent produire de l'ordre en donnant une forme conventionnelle à la rivalité. Toutefois, cette forme reste fragile quand la recherche de victoire détruit la loyauté envers les règles, la compétition cesse de porter une signification culturelle commune. Quatrièmement, poésie, langage et art comme invention de monde réglé dans Homo Ludens. la poésie occupe une position privilégiée car elle montre, avec netteté, comment le jeu travaille le langage. Le poète crée un monde distinct du discours utilitaire, fondé sur le rythme, la répétition, l'image, le masque et la transformation des mots. Les devinettes, les chants, les énigmes et les échanges verbaux cérémoniels illustrent cette capacité à instituer des règles propres de parole. Huizinga y voit moins un ornement de la culture que l'une de ses opérations constitutives, faire exister des significations qui ne sont pas immédiatement données par la vie. Pratique. L'art participe du même mouvement en organisant des formes, des limites et des conventions qui invitent un public à entrer dans un univers particulier. Cette lecture ne prétend pas que toute création artistique est légère ou dépourvue de gravité. Le jeu peut contenir une discipline exigeante et une expérience sérieuse, précisément parce que ces règles permettent une concentration collective de l'attention. La valeur de cette approche est de refuser une opposition simpliste entre invention et règles. L'imagination culturelle ne se déploie pas malgré les formes, mais souvent grâce à elles, en étudiant les pratiques poétiques et symboliques. Huizinga montre que la culture ne consiste pas seulement à transmettre des contenus, elle invente continuellement les cadres dans lesquels des mots, des images et des gestes deviennent partageables. En dernier lieu, la critique moderne du jeu dégradée par le calcul et le puérilisme, le livre ne se contente pas de célébrer le jeu comme source de culture. Huizinga distingue le jeu authentique, libre et soumis à des règles reconnues, de formes modernes qu'il juge dégradées. Il s'inquiète notamment du puérilisme, terme par lequel il désigne une attitude collective qui emprunte certains signes de la jeunesse ou de la distraction sans conserver la mesure. La responsabilité est la tenue propre au jeu culturel. Cette réserve est essentielle pour éviter une lecture naïve de sa thèse. Toute activité amusante, spectaculaire ou compétitive ne mérite pas automatiquement le nom de jeu au sens fort. Lorsque la rivalité devient seulement propagande, recherche de rendement, manipulation des masses ou hostilité sans limite, elle peut conserver des apparences ludiques tout en perdant la liberté et le fair-play qui fondaient sa valeur. Cette analyse garde une résonance dans les débats actuels sur la mise en compétition de la vie sociale et sur la gamification du travail ou de la consommation. Elle invite à poser une question plus exigeante que celle de savoir si une pratique est plaisante, quelle règle instaure TL qui peut y participer. Et sert-elle encore un espace d'expérimentation partagé. Huizinga ne fournit pas un programme politique contemporain, mais il offre des critères pour distinguer créativité réglée. Jeu socialement fécond et simulation instrumentale du jeu. En conclusion, Homo Ludens convient particulièrement aux lecteurs de philosophie de la culture, histoire des idées, anthropologie, études du rituel, théorie de l'art et sciences sociales. Il intéressera aussi les personnes qui travaillent sur le jeu, la compétition, les institutions ou les pratiques créatives, à condition de rechercher un essai historique et conceptuel plutôt qu'une méthode pratique de ludification. Le bénéfice intellectuel principal du livre est de déplacer le regard « le jeu cesse », de désigner une activité marginale pour devenir une clé de lecture des formes collectives. Cette perspective aide à repérer dans le droit les fêtes, la poésie ou les compétitions, la présence de cadres séparés, de règles librement reconnues et de mise en scène symbolique. Elle donne également des outils critiques pour examiner les formes contemporaines de concurrence et de spectacle sans les assimiler trop vite à une culture du jeu féconde. Par rapport à des ouvrages plus récents consacrés à la psychologie du jeu, aux jeux vidéo ou aux techniques de gamification, Huizinga se distingue par son ambition généalogique. Son sujet est moins le comportement du joueur que la manière dont les sociétés produisent du sens par des pratiques réglées et imaginatives. Certaines généralisations reflètent les limites de son époque et appellent une lecture discutante. Mais la force durable de cet essai réside dans sa thèse organisatrice. Son ampleur comparative et sa capacité à relier liberté, règles, compétition et création culturelle au sein d'une même interrogation. Si vous souhaitez soutenir Johan Huizinga, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.